VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Cameroun, retour au calme aux alentours de la prison centrale de Yaoundé après l'intervention des forces de sécurité dans l'établissement dans la nuit de lundi à mardi pour empêcher une évasion de détenus qui protestaient contre leur emprisonnement en saccageant et incendiant une partie du pénitencier. L'axe menant à l'entrée principale de la prison reste bloqué à la circulation. Les protestataires avaient commencé leur manifestation lundi en diffusant en direct sur Facebook leurs revendications concernant les rations alimentaires et leurs exigences de libération. Le film des événements avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Peu avant 20h temps universel, les forces spéciales ont lancé l'assaut contre les prisonniers installés dans la cour principale depuis les premières heures de la journée. S'en est suivi des tirs de balles et de gaz lacrymogènes dans l'enceinte de la prison. Il y a eu des tirs de sommation pour faire rentrer les prisonniers dans leurs cellules, a confié sous anonymat une source de sécurité. Des flammes ont été également aperçues provenant de l'intérieur du centre pénitentiaire. Certains compartiments de la prison ont été saccagés par des prisonniers ainsi que des cellules où se trouvent certains anciens hauts dignitaires incarcérés pour des affaires de détournement de fonds publics. Des actes de vandalisme diffusés en live sur les réseaux sociaux par les prisonniers. Une heure après l'assaut, des unités spéciales des forces de défense et de sécurité, des sources médicales ont fait état des blessés. Il s'agit des prisonniers, a confié une source sous anonymat. Lundi matin, des personnes interpellées en zone anglophone et actuellement en détention à la prison centrale de Yaoundé ont entamé une grogne pour demander leur libération immédiate et protester contre leur ration alimentaire. D'autres détenus du MRC, un parti de l'opposition, se sont joints à ce mouvement. Le gouvernement n'a pas encore officiellement communiqué sur la situation, mais après le retour progressif au calme, les autorités, le ministre de la Défense et le patron de la gendarmerie sont arrivés tard dans la nuit à la prison centrale de Yaoundé. Yaoundé, Emmanuel Jolta, VOA Afrique.
Ebola en République démocratique du Congo maintenant, la démission du ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga, continue de susciter des interrogations. Le docteur Ilunga a donné comme motif de son départ hier la décision du président Félix Tshisekedi de s'appuyer sur une équipe d'experts dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Il a aussi évoqué le refus de l'expérimentation d'un second vaccin. Les précisions de John Lyndon.
Le ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga, estime avoir été désavoué par la décision du président Félix Tshisekedi de prendre le contrôle de la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui a tué 1737 personnes en un an dans l'est de la RDC. Jusque-là, un seul vaccin fabriqué par le groupe pharmaceutique Merck a été autorisé pour être utilisé dans la riposte contre Ebola, soulignait lundi le bulletin du ministère de la Santé en indiquant qu'environ 170 000 personnes ont été vaccinées. Selon son entourage, le ministre Ilunga s'était opposé dans une circulaire à l'introduction du deuxième vaccin produit par le laboratoire belge Janssen, filiale de l'américain Johnson & Johnson. Dans sa lettre de démission, le docteur Oli Ilunga révèle qu'il serait illusoire de croire que le nouveau vaccin proposé par des acteurs qui ont fait preuve d'un manque d'éthique manifeste en cachant volontairement des informations importantes aux autorités sanitaires puisse avoir une incidence déterminante sur le contrôle de l'épidémie en cours.
Par ailleurs, poursuite des violences dans le Nord Kivu, l'une des deux provinces affectées par l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC. 12 civils, dont 2 enfants, ont été tués à la machette et par balle dans 2 attaques attribuées aux ADF, les milices ougandaises musulmanes des forces démocratiques alliées. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP Donat Kibwana, administrateur de ce territoire, en précisant que les tueries avaient eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. L'armée congolaise a confirmé ces attaques. Au Congo-Brazzaville voisin, l'avocat de 13 jeunes trouvés morts dans un commissariat il y a un an a dénoncé aujourd'hui les lenteurs de la cour d'appel de Brazzaville dans l'examen du recours contre le jugement de 6 policiers. La justice congolaise n'avait pas proposé des indemnisations dans cette affaire. Et selon l'avocat, il n'y a pas une quelconque volonté de l'État congolais d'accompagner les parents des victimes sur ce point. Il y a comme un déni de justice, a déploré Maître Steve Bagne de la partie civile.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Nigeria, le journaliste nigérian blessé lundi lors de la manifestation de la minorité chiite à Abuja, la capitale fédérale, a succombé à ses blessures. Precious Orolabi, 23 ans, a reçu une balle alors qu'il couvrait les heurts entre la police et les protestataires chiites, précise un communiqué de la chaîne de télévision Channels, où le jeune journaliste faisait son service national. Le Comité pour la protection des journalistes a exhorté les autorités nigériennes à mener une enquête pour déterminer qui était responsable de sa mort. Au moins 6 manifestants et un policier ont été tués hier lors des violences à Abuja. Il s'agit d'un nouvel épisode de violence entre les forces de sécurité et les militants chiites de l'IMN, le mouvement islamique du Nigeria, Abdourahman Dia.
Selon Abdullahi Mohamed Bello, un membre de l'organisation chiite, les manifestants marchaient sans violence et arrivés au niveau du ministère des Affaires étrangères, la police a commencé à tirer en l'air et sur la foule. Il dit avoir vu 6 corps, dont celui d'un mineur. La police a commencé à sortir en nombre et à tirer des gaz lacrymogènes et les manifestants ont riposté en lançant des cocktails Molotov et ont mis le feu à des véhicules de pompiers, a indiqué pour sa part un photographe de l'AFP. Un haut gradé de la police a été tué dans les heurts avec les chiites à Abuja, selon l'agence de presse nationale, qui a ajouté que le policier Omar a été tué par les manifestants en tentant d'empêcher les actions violentes et la destruction de biens. Le porte-parole de la police, Frank Mba, a publié un communiqué pour demander aux habitants d'Abuja, la capitale fédérale, de rester calmes. Amnesty International a aussitôt réagi, appelant les autorités à ne plus réprimer la manifestation chiite dans le sang. Les chiites demandent la libération de leur chef Ibrahim Zakzaki, détenu depuis décembre 2015.
Afrique de l'Ouest toujours, en Gambie, un militaire gambien a accusé au cours d'une audition publique devant la commission Vérité et Réconciliation lundi, l'ancien président Yahya Jammeh d'avoir ordonné l'assassinat il y a 15 ans de Deïda Haïdara, qui était le correspondant de l'AFP sur place. Le militaire a reconnu avoir directement participé à son assassinat. Deïda Haïdara, un journaliste très critique envers le régime de Yahya Jammeh, a été tué par balle le 16 décembre 2004 à Banjul, au moment où il accompagnait en voiture 2 collaboratrices de son journal, qui ont été d'ailleurs blessées. Corruption au Kenya, le ministre kenyan des Finances, Henry Rotich, a plaidé aujourd'hui non coupable des accusations de corruption portées à son encontre en rapport avec un projet de construction de 2 barrages d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Monsieur Rotich et 15 autres responsables administratifs ont comparu dans la matinée devant un tribunal de Nairobi pour répondre de plus d'une dizaine de crimes financiers. Ils sont notamment accusés de fraude, d'abus de pouvoir et d'avoir accepté des pots de vin. Et tous ont plaidé non coupables. Plus de détails sur cette affaire qui domine l'actualité dans le pays avec Irénée Hermann Umbo.
C'est le directeur des poursuites publiques, Nourdine Hadji, qui a demandé l'arrestation et l'inculpation du ministre Henry Rotich et de 27 hauts responsables administratifs pour fraude, abus de pouvoir, irrégularité financière et autres crimes économiques. Selon Hadji, la conception du projet, l'obtention du marché et le processus de paiement de la construction des 2 barrages sont criblés d'irrégularités. Le coût total du projet serait de 450 millions de dollars, mais le ministère des Finances l'a augmenté de 164 millions sans justification adéquate. 180 millions de dollars ont déjà été versés sans que la construction n'ait commencé. 6 millions de dollars avaient aussi été affectés à la relocalisation des riverains touchés par le projet. Mais aucune preuve n'a été trouvée que des terrains ont été effectivement achetés.
Et pour terminer, en Afrique du Nord, des combats meurtriers continuent de se dérouler aux portes de Tripoli, la capitale de la Libye, entre les forces loyales au GNA, dirigées par Faiz al-Sarraj, et celle du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays, qui mène depuis le 4 avril une offensive pour conquérir la capitale libyenne. Le gouvernement libyen d'union nationale, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, a indiqué avoir repoussé hier une grande offensive des forces de Khalifa Haftar au sud de la capitale, faisant état de combats meurtriers. Pour leur part, les forces pro-Haftar ont annoncé avoir progressé sur les fronts de combat au sud de Tripoli. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Moi, je viens de